ce que j'avais fait la semaine dernière, c'est que j'avais attiré votre attention sur le fait que les microglies sculptent, pour ainsi dire, la neurogénèse au niveau de l'hippocampe adulte. Hein, l'hippocampe, c'est cette structure cérébrale qui est impliquée dans la mémoire spatiale, et pas uniquement d'ailleurs dans la mémoire contextuelle, donc pas mal de phénomènes de mnésique en l'occurrence. Et donc cette activité des microglies repose sur le fait que toutes les cellules, j'espère que là je ne me suis pas gouré de... Parce que si je me suis gouré, c'est vraiment embêtant là. Non, je ne pense pas. C'est bizarre, ça ne ressemble pas à ce que j'attends. Mais bon. Je crois que je suis devenu gâteux. Que toutes les cellules... C'est quand même très étrange cette histoire, excusez-moi. Mais... J'espère que j'ai allumé le bon. Non, ce coup-ci, je vous fais le mauvais, ce coup-ci encore, ce n'est pas très bien. Non, ça a l'air d'être ça. Bon, bah, écoutez, on va s'en contenter. Hein. Je commence à avoir des problèmes d'apoptose, moi aussi. Donc, que toutes les cellules qui sont générées au niveau de la zone subgranulaire, c'est-à-dire dans cette région-là, hein, en fait, ne survivent pas. Et donc, qu'elles doivent être phagocytées, parce que bon, si elles meurent, elles ne peuvent pas rester dans le parenchyme en relarguant tout leur contenu. Et de fait, il faut savoir que c'est une minorité de cellules nouvellement générées qui passent cette période qu'on peut appeler une période critique, en fait, hein, et qui, finalement, sont insérées dans les réseaux neuronaux. Après cette insertion dans les réseaux neuronaux, une fois qu'on a fait de nouveaux circuits, il y a une deuxième période critique où les neurones peuvent encore être éliminés à ce stade. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont éliminés, ils se génèrent ici, hein, voilà, ils peuvent être mangés à ce stade-là, et s'ils survivent une période, première période critique qui se produit entre la naissance et la première semaine, ils peuvent s'insérer dans des réseaux neuronaux, faire de nouvelles synapses, mais à ce niveau-là, ils peuvent encore, au moment où ils s'insèrent, vers un mois, être délétés, mourir, hein. Vous voyez ça ici très bien, c'est-à-dire que voici le nouveau bouton qui arrive, ou bien il remplace l'autre, ou bien il reste avec l'autre, ou bien il est déplacé par l'autre, et voilà quoi. Donc c'est une deuxième période critique qui peut être donc plus tardive. Hein. Sinon, s'il ne meurt pas, il s'ajoute aux anciens, hein, comme ici, où ils éliminent les anciens, comme ici, là ils s'ajoutent, là ils éliminent. Donc, il faut admettre pour l'instant que je vais rester au premier stade de la sélection, c'est-à-dire la sélection la plus précoce, et dont je peux dire aujourd'hui que je ne comprends pas très bien le sens. Je ne pense pas d'ailleurs que je sois le seul. Mais je vais vous faire quelques propositions. Dans un cas comme dans l'autre, c'est une sélection, c'est la sélection d'un répertoire qui est en train de se produire. Et c'est une neurogénèse qui est génératrice de diversité. C'est ça qu'il faut comprendre. En fait, quand vous faites ça, vous avez différents types de cellules. Toutes les cellules ne sont pas identiques. Donc ça, c'est le premier message. Parmi ces cellules générées, elles ne sont pas toutes identiques, et vous allez voir pourquoi. Et je vais, dans un moment, discuter d'un des mécanismes, qui me paraît un des mécanismes les plus extraordinaires que j'ai lus dans les dernières années, de génération de cette diversité chez l'adulte. D'ailleurs, pas uniquement chez l'adulte. Donc la conception dominante, je vous la rappelle, est que les cellules meurent au stade immature et qu'au stade de neurones immatures, essentiellement. Hein. Donc, neurones immatures, c'est-à-dire dans cette région-là. Ça, c'est l'idée qu'on se fait. Jusqu'à maintenant, ce qu'on faisait, c'est que le neurone meurt à peu près quand ils sont entre neuroblastes et, disons, neurones immatures. Hein. Mais en réalité, si vous regardez un tout petit peu de plus près, vous constatez que vous avez une chute brutale de nombre de cellules qui sont marquées par la bromodéoxyridine, c'est-à-dire des cellules qui prolifèrent. Vous savez, c'est un analogue de la thymidine, c'est-à-dire les cellules qui prolifèrent incorporent la bromodéoxyridine. Donc les cellules qui sont nouvellement générées incorporent cet analogue de la thymidine et ces neurones qui sont marqués meurent extrêmement précocement. Ce qu'on voit, c'est qu'on a une chute du nombre de neurones marqués extrêmement précoce. Donc il s'agit d'une mort par apoptose qui implique évidemment la mise en route d'un programme génétique de mort cellulaire. Donc ce programme génétique de mort cellulaire, le voilà ici. Donc il faut quand même que je vous montre un petit peu les... Tout à l'heure, je reprendrai la discussion à partir de l'article de Sierra sur lequel je m'étais arrêté la semaine dernière, Sierra et collaborateur, qui est un article de Cell Stem Cell de 2010, où les auteurs ont analysé la localisation dans l'hippocampe d'adultes jeunes, d'adultes de 1 mois. Alors, chez la souris comme chez le rat, 1 mois, si vous voulez, c'est de l'adolescence, quoi, en gros. Hein. Donc, ils ont regardé où étaient ces cellules dans l'hippocampe, et ils ont vu que ces cellules dans l'hippocampe qui meurent ont des noyaux pycnotiques, c'est-à-dire que des noyaux de cellules en apoptose, qui correspondent à une condensation de l'ADN, si vous voulez, à une fragmentation du noyau. Donc sur cette diapositive que je vous montre ici, vous avez un schéma, parce qu'on a besoin un petit peu de ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, c'est là où ça veut dire chute des feuilles à l'automne. Et en fait, sauf qu'il n'y a pas de printemps derrière. Donc, sauf enfin, dans certaines religions, mais c'est à Pâques que ça se passe. Mais j'y compterai pas trop. Donc, vous avez un schéma global de ce qu'on appelle l'apoptose. Donc, si vous allez tout en bas ici, vous voyez que vous avez des caspases, qui sont des protéases, qui sont activées par les différentes chaînes de type apoptotique, et qu'il y a une maturation de la caspase. Donc, en fait, une première chose, c'est que cette caspase 3 ici peut être maturée pour donner une caspase active, donc en pré-caspase, et il y a des enzymes qui reconnaissent les caspases activées. Donc, quand les caspases sont activées, ce n'est pas bon. Avec ces enzymes, on peut reconnaître les cellules qui vont entrer en apoptose. Et puis, vous avez des substrats spécifiques qui sont clivés par ces caspases. Et on y a un en particulier qui s'appelle l'actine, qui est une protéine de filament, qui est un microfilament des cellules. Et quand l'actine est coupée, ça donne ce qu'on appelle une fractine. Et ça, c'est aussi reconnu par les anticorps spécifiques. Donc, quand on voit apparaître les substrats activés, ça veut dire qu'on est au bord du gouffre, quoi. Donc, c'est ce qu'ont utilisé donc, dans cet article de Sierra. On utilisait tous ces marqueurs, en particulier l'apocaspase activée en caspase 3 après clivage et l'actine activée en fractine, plus évidemment les figures pycnotiques de noyaux en apoptose. Et à l'aide de ces marqueurs, ce que ces auteurs, donc Sierra et Dahl, ont vu, c'est que vous avez 90% des cellules qui sont en apoptose sont dans la zone subgranulaire. C'est-à-dire qu'ils sont là. Ils sont à l'endroit où ça meurt. Plutôt où ça naît, mais où ça meurt en même temps. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment le temps de sortir du truc, qu'ils sont déjà en apoptose. Et en fait, dès qu'elles ont passé ce stade, c'est-à-dire qu'elles ont commencé à rentrer, vous voyez ici, dans la zone granulaire, et qu'elles ont même commencé à faire des synapses avec les fibres qui arrivent ici du cortex entorhinal, comme je l'ai expliqué la semaine dernière, eh bien, vous n'avez plus de mort apoptotique, hein, en tout cas beaucoup moins. Alors ça, c'est vu avec ici un anticorps contre la caspase 3 activée, c'est-à-dire que voilà une cellule ici qui exprime la caspase 3 activée, et vous voyez là qu'elle est entourée par un macrophage, puisque le macrophage est marqué en bleu, il exprime une protéine fluorescente sous le contrôle d'un promoteur spécifique des macrophages. Alors, pourquoi ces cellules meurent? Évidemment, c'est une question qui est sans réponse. Et bien qu'elles meurent, ce qui est vrai, ce qui est toujours vrai, c'est qu'elles doivent être éliminées pour les raisons que je viens de vous dire, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles déversent leur contenu dans le cerveau. Donc, sur cette même diapositive, que je vous ai d'ailleurs montré la semaine dernière en fin de cours, vous avez cette cellule, non seulement vous avez 90% de cellules qui meurent ici, vous voyez que vous avez un index phagocytique, qu'on utilise la pycnose du noyau, l'activation de la caspase 3 ou la présence de fractine, eh bien, vous voyez que vous avez le même index de phagocytose, c'est-à-dire que toutes les cellules qui entrent en apoptose eh bien, sont dans des figures de ce type, c'est-à-dire qu'elles sont phagocytées. Donc, un signe de faiblesse quelconque, et puis hop, voilà. Donc, pour en finir avec ce rappel, je vais insister sur le fait qu'il ne s'agit pas ici, chez le jeune en tout cas, hein, chez le jeune, car c'est un peu différent chez les cellules âgées. Je vous le disais, un mois, c'est un peu l'adolescence hein, chez les souris. Il ne s'agit pas d'une réaction inflammatoire. Hein. Il s'agit d'une... Les microglies ne sont pas amoeboïdes, les microglies sont ramifiées, et ces microglies ramifiées sont dispersées parmi les progéniteurs. Donc ça, c'est quelque chose de normal, c'est-à-dire parmi les progéniteurs neuraux, vous avez ces microglies, vous voyez ici en bleu, et les progéniteurs, vous les voyez parce qu'ils sont marqués ici à la nestine, c'est-à-dire c'est qu'elle est un marqueur extrêmement précoce, juste au début de la prolifération, hein, de la sortie de cellules souches. Ils sont aussi marqués un petit peu par la PSA-NCAM, qui est un marqueur plus tardif, mais jamais par la double cortine, par exemple, c'est-à-dire qu'en fait, on se situe toujours au fond dans les 8 premiers jours de la vie de ces cellules qui voient le jour chez l'adulte, hein, de nouveau. Donc, la PSA-NCAM, elle, peut perdurer pendant plusieurs semaines. Vous voyez ici que ça commence à s'éteindre vers 28 jours, c'est-à-dire vers 4 semaines. Mais comme je vous dis, on se situe là. Hein. Bon. La prochaine diapositive que je vais vous montrer, je vous rappelle de nouveau, c'est une structure curieuse, hein, une sorte de boursouflure que vous voyez ici. Donc la glie n'est pas amoeboïde, c'est toujours une glie ramifiée. Elle a une espèce de cuillère ici qui permet d'entourer les cellules mortes et qui les mange. Hein, vous voyez ici le macrophage. Vous voyez tout d'un coup qu'il va entourer une cellule en train pycnotique ici et l'internaliser et la dégrader complètement. Donc, ces cellules qui sont mangées ainsi peuvent être caractérisées à l'aide de marqueurs spécifiques. Hein. Et ces marqueurs spécifiques, 8% de ces cellules expriment ce qu'on appelle la nestine. Donc 8% sont à ce stade-là. Donc ce sont des cellules extrêmement jeunes. Vous avez 42% des cellules qui expriment PSA-NCAM. Mais comme elles n'expriment jamais double cortine, ça veut dire qu'elles sont vraiment très très proches de cette région-là. C'est-à-dire qu'elles sont à l'intérieur des 8 premiers jours. Et vous avez 28% des cellules, 30% en gros, qui expriment un marqueur qui s'appelle la propiomélanocortine, qui curieusement se trouve, pour les spécialistes, se trouve être un marqueur des cellules des grains nouvellement générées dans le gyrus denté. Donc si on voit ici effectivement que la PSA-NCAM, on voit la PSA-NCAM, mais on ne voit pas, comme je viens de vous dire, la double cortine. On ne voit pas non plus évidemment de Neuhen, qui est un marqueur de cellules extrêmement matures. Donc ça signifie, pour moi en tout cas, et pour vous aussi j'espère, que la plupart des cellules neuronales qui sont phagocytées sont des cellules très jeunes. Et par ailleurs, j'attire votre attention sur le fait, pas de double cortine, pas proxin, pas Neuhen, mais vous n'avez pas non plus de marqueur de cellules gliales, c'est-à-dire que ce sont seulement les jeunes neurones qui font l'objet de ce nettoyage rapide. Alors, rapide, oui, mais peut-être encore plus rapide qu'on ne peut le penser, parce que, bien entendu, ce n'est pas parce qu'on voit de la phagocytose qu'on sait à quel stade l'apoptose a été induite. Hein, comme vous avez vu dans la diapositive ici, ce que je vous montre, c'est se passe à peu près par là. Donc, il y a toute cette chaîne d'événements qui s'est produite avant, c'est-à-dire qu'en fait, l'induction de la mort a pu être faite beaucoup plus rapidement qu'on ne pourrait le penser, c'est-à-dire qu'à peine né, que déjà il faut s'arrêter. Donc, ouais, enfin, le vrai bonheur est d'être jamais né. Hein. Il est toujours trop tard quand on s'en aperçoit. Mais c'est pas moi qui le dis. Hein. Je suis très content. Donc cela ne dit pas forcément à quel stade l'apoptose est induite à cause du délai entre apoptose et phagocytose, mais et d'autant plus que c'est l'apoptose qui induit la phagocytose, bien entendu. Donc, pour déterminer à quel stade les choses se produisent, les auteurs, toujours le même papier, On fait des marquages au BRDU, donc cet analogue de la thymidine qui marque les cellules en prolifération. Et ça, ça permet de marquer la date de naissance des cellules. Dès que j'incorpore de la bromodéoxyridine, ça veut dire que j'étais en prolifération, c'est à ce moment-là que je commence à naître. Et la littérature nous montre, quand on la lit, que le nombre de cellules qui sont marquées au bromodéoxyridine dans la zone subgranulaire, donc dans la zone de l'hippocampe où les cellules sont générées, décline extrêmement rapidement dès la première semaine de la vie. Alors, pour vérifier ce point, ce que ces auteurs ont fait, c'est d'injecter de la bromodéoxyridine au temps zéro, et puis ensuite ils ont regardé ce qui se passait à 2 heures, à 12 heures, à 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, etc. Et ce que vous voyez sur ce marquage, alors là les marquages, ils sont là, en rouge, sur les bromodéoxyridines, aussi à 2 jours, on voit les cellules dans le gyrus denté qui sont ici, on en voit aussi pas mal à 3 jours, et qu'à 4 jours, on en voit déjà beaucoup moins, et ça, ça peut être quantifié. On voit le marquage qui monte, ici, et puis d'un coup, on voit que ça tombe, donc il y a une première descente à 4 jours, puis ensuite, une espèce de queue de pic comme ça. Ce qu'on voit aussi, et qui est extrêmement curieux, dans cette, ici, c'est que bon, ça, c'est le nombre de cellules marquées qui meurent par heure. Donc, dans les premiers jours, ça meurt beaucoup, entre le 3 jours et 3 et 4 jours. Et puis, vers 8 jours, vous voyez que ça ne meurt plus du tout. Et là, c'est très, très peu. Mais ce qui est très frappant ici, c'est que, au fond, il y a assez peu de cellules qui meurent. C'est-à-dire que si vous regardez le nombre de cellules marquées au BRDU par rapport au total de nombre de cellules apoptotiques, on est dans des nombres relativement faibles. Et ça, c'était assez inquiétant, en particulier alors qu'on s'attendrait à avoir quelque chose de beaucoup plus fort. C'est-à-dire que toutes les cellules apoptotiques BRDU devraient normalement avoir un beaucoup plus grand nombre de morts. Donc ça, c'était bizarre. Et à cela, il y a deux explications possibles. La première explication, si vous voulez, c'est que le BRDU se dilue rapidement à cause des divisions cellulaires. C'est-à-dire qu'il y en a, mais vous ne le voyez pas. Donc en fait, il y a plus de cellules qui ont du BRDU, mais comme les cellules ont proliféré très vite, ça s'est dilué. C'est une possibilité. L'autre possibilité, c'est que le marquage n'est pas quantitatif, c'est-à-dire que toutes les cellules qui prolifèrent ne sont pas marquées. Et elles pourraient ne pas être marquées parce qu'en fait, on a fait une seule injection de BRDU, et puis ce n'était pas au moment où les cellules proliféraient, où c'était en fin de prolifération, et en fait, elles n'ont pas incorporé. Alors, il y a une façon donc, vous voyez ici, alors là, c'est exactement ce que je veux dire l'autre jour, c'est le genre d'image qui ne veut rien dire, c'est pour ça que je l'ai mise. On vous montre des macrophages, puis on vous montre des cellules marquées au BRDU, puis on vous dit qu'ils sont côte à côte et donc ils sont en train de se faire manger. Ça ne prouve rien du tout, ça c'est les miracles de l'imagerie. C'est joli, mais bon. Mais on n'est pas des Artus Bertrand de l'embryon, donc ce n'est pas le problème de faire joli. Donc ça ne démontre pas grand-chose. Mais il fallait quand même que je vous montre à peu près ce qu'on appelle joli. Quoi. Voilà. Donc par contre, ça démontre quelque chose. C'est moins joli, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'en 24 heures, ils ont injecté 8 fois de la BRDU, toutes les 3 heures. Donc ça, ça a un avantage, c'est qu'évidemment, j'en mets beaucoup plus, et comme mes cellules mettent 8 heures pour faire un cycle complet cellulaire, elles incorporent du truc 3 fois de suite. Donc ça veut dire que je peux marquer beaucoup plus de cellules, et qu'en même temps, j'évite la dilution. Et quand je fais ça, je marque pratiquement toutes mes cellules. Vous voyez ici, j'en ai marqué 20 000. Et puis, je vois que mes cellules meurent aussi, tout aussi rapidement, et qu'au bout de 4 jours, de nouveau, vous voyez, j'ai perdu pratiquement toutes les cellules. Donc, ça veut dire, en gros, que les deux sont vrais. C'est-à-dire qu'il y a de la dilution, peut-être, puisque quand j'en mets plus de BRDU, j'en vois plus. Mais beaucoup plus probablement, je pense, qu'on a marqué beaucoup plus de cellules au départ, pratiquement toutes les cellules qui prolifèrent. Et que toutes ces cellules qui prolifèrent meurent extrêmement rapidement au cours du développement adulte. Donc si je rassemble tous ces résultats. Alors là, j'ai aussi les marqueurs. Hein. J'ai un marqueur qui est le marqueur Nestin, qui est un marqueur très, très précoce. Vous voyez que j'ai une première phase de mort à 3 jours. Et puis j'ai ces cellules qui sont des cellules neuronales un tout petit peu plus tardives, qui, elles, meurent un tout petit peu plus tard. Donc j'ai deux. En 8 jours, quoi, j'ai quasiment tout liquidé. Donc si je rassemble ces différents résultats, il me semble que chez le jeune adulte, hein, chez le jeune adulte, on a une sélection qui s'opère pendant les jours 1 à 4, pendant lesquels je perds 56% de mes cellules. Hein. Et ensuite, il y a une deuxième phase qui se met en place, qui est plus tardive, où je perds pratiquement le reste entre les jours 4 et les jours 8. Alors, ce n'est pas clair pour moi, et je pense que ce n'est pas clair non plus pour les auteurs. Est-ce que ce sont deux phases complètement différentes? Est-ce qu'il y a deux périodes critiques dans ce système? Ou est-ce que la deuxième phase n'est jamais que de la première? Il reste qu'après 11 jours, on ne voit plus de mort du tout, et que, avant d'attendre beaucoup plus longtemps, bien entendu, mais, et que tous les premiers jours de vie sont soumis à une période critique, ou si vous préférez, une crise, hein, une crise dont le sens physiologique reste à établir. Et nous en parlerons plus tard. Pour ce qui est de la question de ces deux phases critiques, potentielle ou d'une seule phase avec prolongation. On peut, comme j'ai dit, étudier les marqueurs des cellules en apoptose dans des souris qui sont Nestin+, ou Nestin GFP, qui exprime donc la GFP sous promoteur Nestin, ou POMC GFP. Et comme vous voyez ici, je vous rappelle, c'est bien qu'il y a deux phases distinctes clairement dans la mort. Alors, la première phase affecte les cellules qui sont dans le compartiment d'amplification. Hein. Donc, pour l'essentiel, à ce niveau-là, vous savez que les cellules souches ne prolifèrent pas rapidement. Une cellule souche prolifère dans le sein d'un compartiment qu'on appelle un compartiment d'amplification. Donc, la première affecte des cellules qui sont entre le compartiment d'amplification et la deuxième est par ici, quoi, en gros par ici. Et la deuxième phase affecte des neuroblastes en cours de différenciation. Je dirais qu'on est par là, hein. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas à ce niveau-là que se fait cette première sélection. Donc, les neurones immatures, eux, ne sont pas éliminés à ce stade. Hein. Attention, à ce stade. Alors, pour finir, il y a évidemment des animaux qui sont plus âgés. Hein. Il ne s'agit pas uniquement de regarder les adolescents, même si c'est agréable. Mais on peut regarder des animaux plus vieux. On sait, je vous l'ai raconté il y a très très longtemps, que la neurogénèse adulte diminue rapidement. Hein. Elle diminue rapidement, c'est-à-dire que, vous voyez, par exemple, ici, c'est chez l'homme. Entre 8 et 10 ans, on a une forte neurogénèse dans l'hippocampe. Entre 14 et 16 ans, ça a déjà pas mal diminué. Et puis, vers 33 ans, on est quand même, je ne dirais pas qu'on est au plancher, hein, ça continue, mais il y en a quand même nettement moins. Donc, ça, cette neurogénèse diminue rapidement, en tout cas dans l'hippocampe. Dans la zone subventriculaire, elle ne diminue pas. Les neurones qui font les neurones de l'olfaction, il y a toujours de la neurogénèse. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ça diminue? Je ne sais pas. Voilà. Et chez la souris et chez le rat, c'est pareil que chez l'homme, ça diminue également très rapidement. Alors, vous pouvez regarder ici l'apoptose. Dans la zone subventriculaire, enfin dans la zone des grains, excusez-moi, subgranulaire, dans l'hippocampe. Vous voyez qu'à 6 mois, vous avez pas mal de figures d'apoptose. Vous les voyez ici, le nombre de cellules qui prolifèrent, excusez-moi. Vous voyez ici les marquages BRDU à 6 mois. Vous voyez qu'à 21 mois, chez un vieux rat, voilà, hein, il y en a quand même beaucoup moins. Et de même, pour regarder les nouveaux neurones qui sont marqués ici avec de la PSANCAM, c'est-à-dire en fait des neurones qui ont encore des marqueurs assez jeunes, vous voyez que ici maintenant, vous avez tous ces neurones qui sont en fait des neurones jeunes et que chez un animal de 21 mois, c'est-à-dire un assez vieux rat, hein, faut bien le dire, eh bien, le nombre de cellules qui sont générées récemment ne sont pas très, très... Vous voyez, ça aussi diminue pas mal, hein, vous avez ici les quantifications. Ce qui est intéressant, c'est que malgré tout, quand vous avez de l'apoptose, eh bien, toutes les cellules sont... Ça, c'est dans la zone subventriculaire. Hein, ce que je disais, ça ne change pas. Hein. mais l'index de phagocytose reste maximum, c'est-à-dire que toutes les cellules qui entrent en apoptose sont mangées à quelque âge que ce soit. Ça, c'est pour vous montrer effectivement qu'au niveau du nez, ces cellules dans le supraventriculaire qui vont aller refaire les interneurones dans le bulbe olfactif, eux, continuent à proliférer allègrement entre 6 et 21 mois. Donc l'olfaction, on la garde. Pour le reste, faut voir à quoi ça sert. Hein. Donc, peut-être qu'on sait tellement de trucs déjà qu'on n'a plus besoin d'apprendre grand-chose. Donc, ça, c'est la vision optimiste. Donc, on a une baisse importante donc, de l'apoptose. Et en même temps, vous voyez ici, hein, en même temps, on a toujours un index de phagocytose qui est tout à fait complet. Donc, il y a un couplage entre la prolifération et la mort. Et aussi, il y a un index de phagocytose constant qui reste proche de 100%, ce qui veut dire que les cellules mortes sont toutes et toujours évacuées par ce mécanisme cellulaire. Donc, avant de passer au point suivant, qui est le point important du cours, je vais insister sur deux choses. Alors, chez les jeunes adultes, il faut s'en souvenir, la première période critique pour la survie des cellules nouvellement générées dans l'hippocampe est à 4 jours. Hein, et elle inclut les cellules en prolifération, donc le compartiment d'amplification, et les jeunes neuroblastes. Donc cette constatation est à mettre en regard de la période de 2 à 4 semaines que les gens étudient en général, et au cours de laquelle les neuroblastes tardifs survivent plus ou moins en fonction du comportement animal. L'exercice, je vous ai parlé de la course à pied, les drogues qu'on peut prendre, les hormones, voilà, donc, etc. Donc, ce qu'on peut imaginer, c'est qu'il y a deux périodes critiques, une première très tôt et une plus tardive qui dépend de l'environnement dans lequel l'animal évolue hein, et des stimulations qu'il peut recevoir, des stimulations de toute nature, des jouets, la marche à pied, etc. Donc, ces périodes critiques sont aussi observées, des périodes critiques sont aussi observées au cours du développement, c'est-à-dire pas uniquement chez l'adulte, hein, au cours du développement normal, vous avez aussi des périodes critiques. Par exemple, je vous ai dit, dans les cornes dorsales de la moelle, c'est-à-dire celles qui vont aller innerver les muscles, vous perdez 70% de vos neurones. À peine sont-elles générées que... Et ça, c'est au moment où ils font les synapses, théoriquement. Donc, mais s'ils ne font pas de synapses, ils meurent. Donc, ça a été aussi observé dans le bulbe olfactif. Hein, il y a de la mort à la fois quand elles se promènent, ici, dans le RMS, c'est-à-dire qu'elles sont générées ici, elles se promènent, il y a de la mort, il y a aussi de la mort qui se produit ici. Donc, la mort, si vous voulez, est un phénomène normal à la fois dans le développement du système nerveux et chez l'adulte, évidemment, les macrophages jouent un rôle extrêmement important. La fonction de couplage entre la prolifération et la mort n'est pas connue. Hein, comment se fait ce couplage? Et je vais vous proposer maintenant une spéculation sur ce thème, hein, à quoi ça sert surtout. Mais avant, je voudrais simplement vous rappeler une conclusion qui est très importante et à laquelle je n'ai pas fait suffisamment attention. C'est que la phagocytose par les macrophages n'est pas le résultat d'une inflammation, en tout cas pas chez le jeune. Chez nous, enfin je veux dire chez les gens plus âgés, il y a de l'inflammation au niveau de l'hippocampe. Donc on a des microglies qui sont des microglies inflammatoires. Mais chez le jeune, ce n'est pas une inflammation, c'est une phagocytose tout à fait normale et physiologique. Ça fait partie du boulot de ces cellules que d'aller boulotter, si j'ose dire, les cellules qui sont générées dans, dans les zones neurogéniques. Alors, la semaine dernière, je vous avais proposé, j'avais promis hein, une explication possible à cette perte d'un grand nombre de cellules dès les premiers jours qui suivent la naissance. Alors, pour développer ce point, j'ai besoin d'abord j'ai besoin de revenir sur des choses que j'ai expliquées dans les années précédentes et que vous n'étiez pas tous là. Donc, en particulier au cours de 2009 en particulier sur la notion de transposition. Qu'est-ce qu'un transposon et qu'est-ce qu'un rétrotransposon plus particulièrement. Donc, je vais commencer par ce qu'on appelle les éléments transposables, qu'on appelait autrefois gènes sauteurs. On appelle toujours d'ailleurs jeunes sauteurs, et qui ont été découverts dans les années 1950 par quelqu'un qui s'appelle Barbara McIntosh, qui a eu le prix Nobel d'ailleurs. Et ces éléments ont dans leur séquence toutes les instructions qui sont nécessaires pour sortir d'un fragment d'ADN et se réinsérer dans un autre fragment d'ADN, ailleurs. Hein. Donc ils sautent, hein, c'est pour ça qu'on appelle jeune sauteur, ils sautent d'une région à l'autre du génome. Et ces changements de position sont évidemment très importants parce qu'ils peuvent aller interrompre une séquence codante, hein, vous allez le voir, ou ils peuvent s'insérer dans une région non codante. C'est d'ailleurs la plus grande probabilité parce que je vous rappelle aussi que dans votre génome, dans le mien aussi d'ailleurs, il y a 98% de séquences non codantes. Hein. Les séquences qui font les protéines, c'est 2% du génome. Tout le reste, c'est ce qu'on appelait dans le temps junk DNA, DNA poubelle. Mais ce n'est pas vrai, ça n'a rien de poubelle. C'est vraiment un DNA extraordinairement important sur le plan en particulier de la régulation. En effet, le fait que cet ADN ne soit pas codant, malgré le raccourci journalistique, l'ADN poubelle, comme ce sont des régions qui sont régulatrices, une insertion dans une de ces régions peut avoir des effets beaucoup plus forts hein, qu'une insertion dans une séquence codante, parce que ça peut changer la structure de la chromatine et ça peut modifier évidemment l'expression de gènes qui vont être, qui peuvent ou qui peuvent ne pas d'ailleurs, mais qui peuvent être dans bien des cas importants pour votre développement, pour votre physiologie. Donc, mais ces effets ne sont pas forcément délétères, il peut y avoir aussi des insertions dont tout le monde se fiche, et voire même être profitable, hein, et en tout cas contribuer à la diversité génétique des organismes quand ils se produisent dans les gamètes. Hein. Mais quand ils se produisent dans les lignées somatiques, parce que le neurone c'est quand même la lignée somatique, eh bien on doit se poser la question de à quoi ça sert. Donc, les éléments transposables sont dispersés dans le génome, dont ils constituent une partie importante. Hein. On distingue deux types, si vous voulez, d'éléments transposables. Les transposons à ADN et les rétrotransposons. Alors, je vais surtout vous parler des rétrotransposons, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ils agissent par l'intermédiaire en ARN. Donc l'ADN est transformé en ARN, et puis vous allez voir, l'ARN est retranscrit en ADN, par ce qu'on appelle une reverse transcriptase, et puis l'ADN est réinséré dans le génome. Et on peut diviser ces rétrotransposons en plusieurs familles. Alors voilà ici, suivant qu'ils ont ou qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle des longues terminal repeats. Mais on va oublier tout cela, rassurez-vous. On va oublier aussi tout cela. On va s'intéresser qu'à cela. Hein, donc vous voyez qu'on réduit quand même la difficulté. Donc, donc aux rétrotransposons sans LTR. Hein, comme qu'on appelle les lignes qui sont longues, interdisperse nuclear elements. Donc ça, c'est une sorte de, si vous voulez, de théorie de l'évolution des éléments transposables qui a été proposée par Biémont et Viera il y a quelques années. Et bon, ça, c'est nécessaire, les ITR qui sont les inverted terminal repeats sont nécessaires pour la réinsertion dans l'ADN. Je ne vais pas rentrer là dans les détails. Ils sont aussi nécessaires pour ça c'est de l'ADN. Hein. Ils sont aussi nécessaires pour sortir de l'ADN et pour re-rentrer dans l'ADN. Hein. Donc, TRP, ça cause pour une transposase, c'est une enzyme qui permet de sortir, par épissage. Donc, ce sont des choses extraordinairement anciennes, si vous voulez. Et ce qui nous intéresse là, c'est que ça a donné ces fragments ici. Je passe, soit c'est une reverse transcriptase, ça c'est déjà un rétrotransposon, il y a une rétrotranscriptase, il y a une RNase qui clive l'ARN, et vous avez une intégrase, ça fait partie du complexe de rétrotransposition. Et puis, ça nous a donné ces choses-là. Alors, ces choses-là, ça s'appelle les lines. Hein. Et les lines, il y en a actuellement un million dans le génome humain. Ils composent 20% du génome humain, d'accord ? C'est pas rien. Or, la plupart de ces séquences sont fossilisées, pour ainsi dire, c'est-à-dire qu'elles sont incapables de bouger, elles sont fixées dans le génome, parce qu'elles ont perdu les éléments qui sont essentiels à leur mobilité. C'est-à-dire qu'elles ont perdu, par exemple, un petit bout de reverse transcriptase, ou un petit bout d'RNase, ou un petit bout d'intégrase. Donc, en fait, elles sont fixes. Mais elles ont joué un rôle dans l'évolution du génome humain, bien entendu. Mais il y a encore aujourd'hui, chez chacun d'entre nous, entre 50 et 100 lignes, on va appeler les L1, qui sont toujours actives. c'est-à-dire qu'ils peuvent bouger. Donc, votre génome, je vous disais l'autre jour, que, l'année dernière, que vos cellules, ça changeait tout le temps, ça. Mais le génome aussi est capable de se modifier en permanence à cause de ces morceaux d'ADN qui sautent, hein, comme ça, d'un morceau de chromosome à un autre morceau de chromosome. Alors, on en a 100, nous, qui bougent, à peu près entre 50 et 100. Il y en a qui bougent beaucoup plus que les autres, qui sont des hyperactifs de la... sauteur hyperactif. Donc, mais chez la souris, c'est beaucoup mieux. Hein. On en a 3000. Souris, 3000 lignes actives chez les souris. Et comme je disais, tous ne sont pas actifs au même niveau. Nous, on en a une dizaine qui sont plus actives que les autres. Donc, et les lignes ont une autre fonction qui est de permettre la transposition de ce qu'on appelle les SINs, c'est-à-dire des small interdispersed nuclear elements qui sont beaucoup plus petits, qu'environ 500 paires de bases. Un ligne ayant environ 3000 paires de bases. Donc ça, pour vous dire que ce sont des petites bêtes qui ont un véritable intérêt sur le plan de la mobilité du génome et sur l'instabilité, en fait, sur l'instabilité de notre génome. Donc pour en finir sur ce rappel, je vais vous rappeler un tout petit peu, faire venir cette diapositive, qu'elle mérite évidemment de la simplicité. Hein, qui est publié dans une revue de BioEssai il y a quelques années. Voici ici un LIN en bleu. Il est transcrit en ARN. L'ARN passe dans le cytoplasme. À ce moment-là, il est traduit et les protéines qui sont formées à partir de ces traductions, eh bien, par exemple, l'ORF1, c'est une RNA binding protein. Ça s'appelle open reading frame, c'est-à-dire ça va faire des protéines. Ça, c'est une RNA binding protein. Hein. Et ça, c'est une endonucléotidase qui va être très importante parce que là, je vais avoir donc mon ARN qui va être fait. Je vais être transformé ici, je vais être dans ma reverse transcriptase, je vais être formé en ADN. Mais l'ADN va s'incorporer parce que je vais avoir un petit clivage de l'ADN ici pour pouvoir libérer un fragment en primo H et incorporer mon rétrotransposon. Et je vais donc être mis, mais pas forcément de là où je sors, je peux être mis ailleurs. Hein, donc, vous voyez qu'il y a danger, hein, bien entendu, parce que ça dépend où je suis incorporé. Hein. Donc, comme je disais, le RF1 encode une protéine qui fixe l'ARN et au RF2, une endonucléotidase qui servira à la réinsertion de l'ADN dans l'ADN et une reverse transcriptase aussi dans le RF2 qui est nécessaire à la copie de l'ARN en ADN parce que si je ne transforme pas mon ARN en ADN, je ne vais pas pouvoir re-rentrer évidemment, dans mon génome. Hein, c'est l'ADN qui doit être incorporé. Donc, c'est relativement simple comme schéma. Et cette forme insérée ici, cette nouvelle forme insérée en rouge, ici, elle est souvent inactive, en fait. Elle est souvent inactive parce qu'en fait, ces insertions ne se font pas facilement. Il y a des délétions, il y a des trucs qui sautent. Mais même si elle n'est pas active, c'est-à-dire si elle n'est pas capable de ressortir pour aller ailleurs, même si elle n'est pas active, elle peut être non sans conséquences biologiques, parce que tout dépend où elle s'est flanquée. Hein. Donc, il y a plusieurs conséquences biologiques, je peux vous en donner quelques-unes. Hein. Voilà, par exemple, ici, vous avez votre rétrotransposon qui est venu se mettre au sein d'un exon. Alors, vous savez, les gènes sont divisés en exons et en introns. Quand le pré-messager est transcrit, je fais sauter mes introns par ce qu'on appelle l'épissage, hein, on en a parlé souvent. Et vous voyez ici, si mon élément transposable est venu s'insérer au milieu du premier exon, je vais avoir une protéine qui va avoir une drôle de tête. Si même je fais une protéine, ce n'est pas du tout sûr. Donc je peux aussi, si j'ai deux lignes qui sont comme ça dans deux endroits, comme ils se reconnaissent, je peux les faire ce qu'on appelle des recombinaisons homologues hein, entre deux allèles différents, c'est-à-dire créer des fragments qui sont complètement différents de ce qu'on aurait pu attendre, des choses totalement nouvelles. Hein. Je peux aussi aller modifier l'épissage alternatif. Et ça, c'est une modification qui est particulièrement intéressante parce que ces lignes qui s'incorporent sont souvent inactivées par un phénomène épigénétique dont je vous ai parlé régulièrement, qui est la méthylation des CPG. Donc si tout d'un coup, mon ligne est reconnu, eh bien, j'ai une méthyltransférase, une dénamyltransférase qui vient ici et qui commence à méthyler mon ligne, eh bien, si j'ai des CPG à proximité, si j'ai plein de méthyltransférases recrutées ici, je peux déborder, voyez, le LIN, donc je peux avoir l'inactivation peut dépasser, si vous voulez, ça et aller, je peux aller inactiver des gènes qui sont à proximité de mon élément qui sont transférés. Donc, ces phénomènes, si vous voulez, d'insertion, sont des phénomènes qui sont simplement dramatiques, ils peuvent l'être, hein, sur le plan de la structure de la chromatine et sur le plan surtout de l'expression, hein, de l'expression des gènes. Alors pourquoi je vous dis ça ? Parce que, bien entendu, ça a à voir avec les cellules souches. Sinon, je ne vous en parlerai pas parce qu'on est dans l'année cellules souches. Quel rôle peuvent avoir ces rétrotranspositions dans les cellules souches, puisque c'est de ça qu'il est question. Donc, on va parler uniquement de nouveau des cellules souches de l'hippocampe, c'est-à-dire celles qui sont formées dans le gyrus denté. Bon, vous êtes maintenant devenus plus que moi des spécialistes, parce que moi, je ne suis pas du tout spécialiste de cette question, même si ça m'intéresse. D'ailleurs, je répondrai à une question que vous m'avez posée la semaine dernière. Pourquoi je raconte jamais ce qui se fait dans mon laboratoire ? Donc, j'ai une réponse, bien entendu. Donc, je commence par cet article qui est sorti, je crois, en 2005, qui est un article du laboratoire de Fred Gage, et dans lequel ces auteurs ont cultivé des cellules souches neurales à basse densité, en présence de facteurs de croissance qui s'appellent le FGF2, et en présence aussi de cystatine glycosylée. La cystatine, c'est un inhibiteur de protéase qui augmente l'activité du FGF2. Donc, quand on met de la cystatine et du FGF2, on peut cultiver les cellules souches à relativement basse densité. Et ce que ces auteurs ont remarqué, c'est que ils ont couplé un promoteur de ligne, un UTR, parce que bon, les éléments transposables se promènent avec leur promoteur. Ils n'utilisent pas les promoteurs des gènes dans lesquels ils rentrent, ils ont leur propre promoteur qu'on appelle qui est en 5' UTR, untranslated region, en 5'. Et donc, ils ont couplé un 5' UTR de L1, et puis ils l'ont mis derrière un gène rapporteur, ici une luciférase, qui peut donner lieu à une mesure de l'activité du rétrotransposon. Et ce qu'ils ont vu, c'est que quand on fait cultiver ces cellules à basse densité, eh bien, on observe en fait une surexpression, ici, hein, en fait, une surexpression de l'IN. C'est-à-dire qu'on a une activité. Normalement, on devrait avoir une activité de rétrotransposition assez forte. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'on a une perte de l'expression d'un gène que vous connaissez bien, qui s'appelle SOX2, qui est un gène important dans les cellules souches. C'est-à-dire que quand mes cellules commencent à se différencier, elles cessent d'exprimer SOX2. SOX2, c'est un des quatre importants, mais dans les cellules souches, on les reconnaît par l'expression de SOX2. C'est que si je commence à faire différencier mes cellules souches en culture, hein, tout simplement ici, SOX2 baisse, c'est normal, je cesse d'être une cellule souche, mais en même temps, bang, je commence à activer mes rétrotransposons, c'est-à-dire que je commence à faire de la rétrotransposition. Et il y a un lien direct, si vous voulez, entre la perte d'expression de SOX2 et l'augmentation de la rétrotransposition, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que SOX2 est un régulateur direct, un inhibiteur direct de l'expression des rétrotransposons. Donc, vous voyez ça ici, par exemple, voici un contrôle. Ce qui s'est passé dans celui-là, si je ne me trompe pas, c'est que j'ai mis un siRNA qui bloque SOX2, et donc je perds normalement, qui bloque SOX2, et à ce moment-là, j'ai une augmentation de ma rétrotransposition. C'est-à-dire que mon L1 est stimulé, ça c'est le contrôle, ça c'est un siRNA contrôle, scrambled, et ça c'est un siRNA contre SOX2, si je lève SOX2, voilà ce qui se passe. Ici aussi, ce que je peux faire, c'est muter dans mon UTR, dans mon promoteur donc, de rétrotransposon, je peux muter les sites de fixation de SOX2, et hop, à ce moment-là, je commence à faire de la rétrotransposition. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que je peux immunoprécipiter ma chromatine, des fragments de chromatine avec différents anticorps, et je peux regarder si dans ce que j'ai précipité, j'ai des promoteurs de mes rétrotransposons. C'est-à-dire, est-ce que la protéine que j'ai immunoprécipitée, elle était sur un rétrotransposon ? Vous voyez que quand je suis dans des cellules qui ne se différencient pas, c'est-à-dire des cellules souches, hein, avant différenciation, si j'immunoprécipite avec SOX2, je récupère mon promoteur. C'est-à-dire que SOX2 était fixé sur le promoteur. Mais si je commence à les faire différencier en neurones, en mettant de l'acide rétinoïque ou de la force choline en activant l'AMP cyclique, eh bien vous voyez que je perds SOX2. Je perds aussi d'autres choses. Je perds ici, par exemple, ce qu'on appelle une histone déacétylase, c'est-à-dire que je modifie, vous rappelez-vous, c'est ce qui acétyle les histones, plutôt en l'occurrence déacétyle les histones. Mon histone maintenant devient acétylé, vous voyez que j'ai un petit morceau d'acétylation ici qui arrive, et ça, ça veut dire que je modifie le statut épigénétique de mes promoteurs de rétrotransposants. Et d'ailleurs, vous pouvez y avoir aussi ici que je commence à activer, à avoir des lysines qui sont, je perds les lysines qui sont les méthylations sur les lysines 9 de H3, de l'histone 3, et puis j'augmente la méthylation. Bon. En gros, pour ceux qui n'étaient pas là dans les étapes précédentes, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'active, par modification épigénétique et par retrait de SOX2, l'activation, j'active l'expression de mes rétrotransposons. Et ça, ça se fait, en gros, si vous voulez, au moment où j'arrive ici. C'est-à-dire que là, j'ai mon compartiment d'amplification, mais si je provoque la différenciation neuronale, il y a ce petit bout, c'est-à-dire que je commence à me différencier, eh bien là, je vais commencer à avoir des gènes sauteurs qui vont commencer à sauter dans ma cellule. Et donc, on veut voir si ça saute, bien sûr. Je ne vais pas tout le dire, surtout à notre époque. Donc, pour regarder si ça saute, ils ont inventé un marqueur qui est tout à fait intéressant. Donc ça, c'est un rétrotransposon, vous voyez, de 5 primes UTR, là où il y a les promoteurs. Là, vous avez ORF1, la première protéine, ORF2, les deux autres protéines. Ici, vous avez le 3 primes UTR, et ici, vous avez un polya. Donc ça, c'est la fin. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont inséré une GFP, c'est-à-dire une protéine fluorescente, dans le sens inverse, c'est important, à ce niveau-là, entre le 3 primes UTR et le polya. Et dans la GFP, en plus, ils se sont amusés à mettre un intron. C'est-à-dire que quand mon truc va être transcrit, qui va sortir parce que j'ai supprimé SOX2 qui était fixé là, qui m'en fiche le camp, hop, je transcris tout. Et là, j'ai un gène de sélection parce que quand j'ai transfixé ça dans mes cellules, je ne prends que les cellules qui ont ce truc-là, je sélectionne à la puromycine. Donc j'enrichis en cellules qui ont incorporé ce plasmide. Et donc vous voyez que ce qui se passe, c'est que je suis transcrit, j'ai mon donneur de splice ici, mon acteur de splice, et je suis ensuite donc splicé, donc je retire, je raboute ce bout vert ici à ce bout vert là, donc je vais avoir une protéine verte, à condition qu'elle soit reverse transcrite, qu'elle soit transcrite à l'envers et réinsérée dans l'ADN avant d'être transcrite. Donc en fait, avec ça, grâce à ce système d'insertion à l'envers et d'un intron, je m'assure que toutes les cellules qui vont faire du vert sont des cellules qui ont été rétrotransposées. C'est-à-dire que dans toutes ces cellules, j'ai eu un gène qui a sauté. Et ça, c'est amusant, hein, bien entendu. Enfin, faut que ça amuse. Hein. Mais c'était quand même tout à fait inouï. C'est-à-dire que... vous voyez, je veux revenir. C'est-à-dire que toutes vos cellules qui sont générées pendant chez l'adulte, hein, elles sont l'objet de modifications du génome. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une... Enfin, si, probablement. Mais il y en a beaucoup qui sont différentes, elles sont beaucoup différentes les unes des autres. Parce que justement, vous allez, comme ça, aller taper dans le génome, hein, peut-être au hasard, peut-être pas au hasard, on va le voir. Et donc ça, c'est le transposon. Et ça, c'est le signe que vous avez rétrotransposé. C'est-à-dire que vous voyez, c'est pas parce qu'on incorpore hein, qu'on va avoir un élément de rétrotransposition. Ça, c'est les 343 paires de passes qui correspondent à l'existence maintenant de cette petite chose. Par ailleurs, il faut savoir, ça c'est le cas de ces deux clones ici, qu'on peut avoir rétrotransposé, mais avoir cessé d'exprimer la GFP, hein, parce que ce n'est pas stable. Mais la rétrotransposition a quand même eu lieu, mais elle n'a pas eu lieu dans un endroit qui permet l'expression permanente du marqueur. C'est-à-dire si, par exemple, je m'incorpore dans un endroit où j'ai plein de méthylation, mais d'un coup je suis rendu silencieux, ça ne veut pas dire que je n'ai pas rétrotransposé, et ça je peux le voir par amplification du fragment avec les primers par PCR, en l'occurrence. Hein. Donc ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris les cellules qui ont été ainsi sélectionnées, et ensuite, ils ont purifié, vous voyez ici, les cellules vertes. Donc là, on a une population où il y a énormément de cellules vertes. Il y en a qui sont plus vertes que d'autres. Vous voyez que toutes ces cellules ici sont vertes, elles sont homogènes. Et puis, au cours du temps, vous pouvez perdre l'expression parce que vous avez le truc est rendu silencieux. Il reste que ça, c'est la preuve que dans des cellules souches, vous pouvez avoir de la rétrotransposition. Donc, alors, peut-être pas la peine de lire tout ça, mais c'est quand même assez intéressant de savoir où ça va se mettre. Est-ce que ça se met n'importe où ? Donc, en l'occurrence, ça ne se met pas n'importe où. Donc, ça peut se mettre dans des régions un petit peu particulières. C'est-à-dire qu'en fait, ça va se mettre plus facilement dans des régions qui sont ouvertes, bien entendu. Hein, je cite plusieurs pages, c'est pour ça. Voilà. Dans des régions qui sont ouvertes, c'est-à-dire que l'insertion, si vous avez une chromatine qui est extraordinairement condensée, vous allez avoir plus de mal à rentrer dedans, c'est-à-dire il faut débobiner l'ADN. Donc en fait, ça va se mettre plus facilement à proximité de gènes qui sont des gènes ouverts. Ça ne veut pas dire que ça va se mettre dans d'autres gènes. Hein. Donc, vous voyez par exemple ici... Alors, excusez-moi, il y a une chose que j'ai quand même oublié de vous dire, hein, c'est que... voilà, non, je vous dirai ça après, ce n'est pas grave. Donc vous voyez ici que vous n'avez pas forcément une expression de GFP, mais on peut voir, quand c'est écrit, quand je mets négatif, ça veut dire que vous ne voyez pas les trucs verts. Mais par PCR, vous pouvez voir qu'il y a eu rétrotransposition. Et donc, alors ça peut se faire dans un récepteur, directement, par exemple ici, dans un récepteur olfactif. Ici, je crois que c'est dans une protéine de scaffold, il y en a un comme ça qui est assez rigolo. Mais ça peut se mettre aussi à des distances de certains gènes, mais c'est jamais, si vous voulez, dans ces... Il n'y a eu que 21 clones qui ont été regardés, là. Hein. Mais dans ces 21 clones qui ont été regardés par ces auteurs, ce n'est jamais, si vous voulez, très très loin d'un segment ouvert. Et ça, ça peut s'expliquer relativement bien. Comme je vous dis, parce que c'est des endroits où la chromatine n'est pas... est ouverte, hein, puisqu'il y a des gènes qui sont transcrits à proximité. Mais il y a quand même une très grande diversité, hein, déjà sur ces 21, c'est dans 21 gènes différents quand même, pour les 21 clones qu'ils ont fait, donc ça veut dire qu'il y a une grande diversité de possibilités d'insertion dans mon génome. Alors, bah oui, c'est amusant de voir ce qui peut se passer in vivo. Hein, parce que tout ce que je vous ai montré avant, hein, ce sont des expériences qui sont faites en culture. Donc, est-ce que je peux avoir un phénomène comme ça dans l'animal ? Alors, je ne vais pas vous montrer ce qui se passe dans Sapiens, je vais vous montrer ce qui se passe avec cet outil ici, qui est un outil humain, hein, c'est un rétrotransposon humain, qui a été mis dans un génome de souris. Donc, c'est une souris qui est capable d'exprimer un rétrotransposon humain. Et donc, qu'est-ce qui se passe là ? Ben, écoutez, voilà ici les souris, hein. Donc ça, c'est une souris contrôle, il ne s'est rien passé. Cette souris-là, elle a incorporé le rétrotransposon, on voit bien. Cette souris-là aussi. Et là, elle a incorporé, on ne voit pas, mais bon, elle a dû l'incorporer puisqu'elle a même fait de la rétrotransposition au cours du développement. Hein. Vous voyez que là, c'est à la naissance. Et celui-là, il a incorporé, il a aussi fait de la rétrotransposition au cours du développement. Donc, il peut être intéressant d'étudier ces souris-là pour savoir quelles sont les régions qui ont été l'objet d'une rétrotransposition au cours du développement. Mais celles-là sont encore plus intéressantes parce qu'on peut les laisser vieillir et regarder où il y a des rétrotranspositions au cours du développement adulte cette fois-ci, voire tardivement. Et les résultats que je vous montre là sont assez jolis, hein, parce que ce que vous pouvez réaliser, hein, c'est qu'il y a des rétrotranspositions dans tous les tissus cérébraux. Par exemple, je ne vais pas vous donner les détails, ça c'est du striatum. Une fois que c'est vert, ça veut dire qu'en fait, mon rétrotransposon a fonctionné, c'est-à-dire que j'ai maintenant du vert dans ma cellule où ça a sauté. Hein. Donc là, c'est du striatum, il y en a dans les noyaux de l'amygdale. Vous voyez que ce n'est quand même pas des doses faibles. Hein. Là, c'est le noyau de l'amygdale, une région qui est très importante dans les comportements émotionnels, par exemple. Et ce que je vous montre ici, c'est de la rétrotransposition. Alors là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un anticorps anti-ORF1 pour voir le rétrotransposon exprimé, parce que la protéine étant traduite, ça veut dire qu'il s'est exprimé, c'est-à-dire qu'il est passé dans le cytoplasme, la protéine était traduite, et ça leur a permis de faire un SOX de verre, hein, pour voir les cellules souches. Vous voyez que les cellules souches, je suis dans l'hippocampe, là, hein, je suis dans la zone subgranulaires d'hippocampe. Vous voyez que les cellules souches qui sont en vert ne sont jamais rouges. Donc, quand j'ai une cellule souche, je n'exprime pas mon métrotransposon. Mais dès que je me différencie, que je commence à migrer dans mon hippocampe, je vais dans la zone des grains en particulier, eh bien, je peux commencer à exprimer ORF1, c'est-à-dire que là, j'ai fait de la transposition. Donc, c'est un phénomène absolument remarquable, vous imaginez bien, ça veut dire que chez l'adulte, mais aussi au cours du développement, on ne peut pas l'oublier, et indépendamment de ce que sont vos gamètes, vos neurones créent de la diversité et créent des répertoires neuronaux qui sont des répertoires... ça doit avoir une fonction. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un phénomène darwinien derrière ça, qui va, parmi tous ces neurones qui sont générés, sélectionner des sous-catégories de cellules qui seront intéressantes dans un contexte physiologique donné. Je vous donne ici ce qu'on appelle la jumping gene roulette, qui n'est pas l'équivalent de la roulette russe, mais assez proche. Vous avez ici, donc, vous voyez ici par exemple, deux jumeaux qui vont se développer. Voilà, ici, c'est l'hippocampe. Eh bien, les nouveaux neurones... Alors, déjà, au cours du développement, vous avez de la modification des répertoires neuronaux par ce phénomène de rétrotransposition, mais même chez l'adulte, dans votre hippocampe, vous générez des nouveaux neurones, et ce que je vous ai dit, c'est que vous avez, je ne sais pas, entre 50 et 90% de ces neurones qui meurent, c'est-à-dire que cette mentalité peut être liée, effectivement, à la sélection de sous-types. D'abord, éliminer ceux qui sont vraiment catastrophiques, parce que je dis qu'on ne sait pas où ça va s'insérer, donc ça peut s'insérer dans un truc absolument... Il faut mieux qu'il meure. Ben voilà, quoi. Et puis, les manger. Ça nourrit les macrophages. Ça peut être aussi une sélection, peut-être plus tardive, au niveau des réseaux neuronaux, de cellules qui sont particulièrement appropriées pour remplir une fonction donnée à un stade donné. Ce qui est intéressant, quand même, sur un plan quasiment philosophique, c'est que, fondamentalement, au cours de la vie, eh bien, vous changez votre cerveau. Non seulement vous changez votre ADN, mais vous changez aussi la structure génétique des neurones qui participent au renouvellement du système nerveux dans les régions neurogéniques. Donc ça s'ajoute évidemment à cette entreprise de démolition systématique de la stabilité du corps, c'est-à-dire que fondamentalement... eh bien, le cerveau n'est pas plus que les membranes ne sont des structures fixes, pas plus que l'ADN, comme vous le voyez, n'est une structure fixe, parce que ça se casse, parce que ça se répare, mais aussi parce que justement il y a la transposition, eh bien, pas plus les neurones qui sont dans des régions quand même relativement importantes, parce que l'hippocampe, c'est vraiment une région importante du système nerveux, eh bien, pas plus ces neurones ne sont eux-mêmes fixes dans leur identité génétique, même si évidemment, quand c'est là, ça ne va pas passer dans la lignée germinale. C'est-à-dire qu'à la mort de l'individu, bon, bah, on recommence à zéro. Mais je vous laisse donc avec ce message qu'on ne se baigne jamais deux fois dans le même homme, quoi, en gros. Quoi. Voilà. Et s'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre. Voilà.